va bientôt terminer, mais on a prévu de qu'il y ait une lecture d'un témoignage. Donc Gérard Cherki, si vous voulez bien venir, en fait, nous lire des extraits d'un témoignage qui raconte un peu de l'intérieur. Un témoignage qui s'appelle Donbass, un journaliste en camp raconte, écrit par l'écrivain, journaliste et blogueur ukrainien Stanislas Asseyev et traduit par Irina Dmitrychin. Et c'est un témoignage qui rend compte de ses 2 ans dans la prison secrète de Isolatia, surnommée le Dachau du Donetsk, et des tortures qu'il y a endurées, ainsi que de tout le système mis en place par les Russes.
Isolatia est une prison secrète dans la partie du Donbass contrôlée par la Russie et transformée en camp de concentration. Depuis sa création, des centaines de personnes sont passées par Isolatia. La majeure partie d'entre eux ont subi des tortures à l'électricité, des viols, des humiliations et des atteintes à la dignité, ainsi que des travaux forcés. Des cas de meurtre de prisonniers ont été recensés à Isolatia. Aucune mission ou organisation de défense des droits humains n'a eu accès au territoire de cette prison. Actuellement, elle continue à fonctionner sous le contrôle du FSB de la Fédération de Russie. Je ne suis pas certain du bon choix des mots. Le spectre des événements est trop large. Nous avons vécu entre le claquement d'une bouteille en plastique qui faisait sursauter l'ensemble de la cave et la musique classique que diffusait la radio, les jours relativement calmes. Comment expliquer ce qui se passait entre ces 2 événements sonores ? La musique classique garantissait-elle qu'au même moment, des gens ne se tenaient pas sur les genoux, les pieds croisés, avec des sacs sur la tête ? Non, évidemment. Dans ce livre, il sera question d'une prison secrète au cœur même de Donetsk. La prison, qualifiée de Dachau de Donetsk, pour ceux qui sont passés par cet endroit, le livre ne sera pas uniquement un récit sur la prison. Ce qui se passait entre les murs d'Isolatia dépasse l'entendement, même là où on ne s'attendait pas à autre chose qu'à de la cruauté. En liberté, depuis plusieurs mois, je me demande toujours, était-ce bien réel ? Est-ce à moi que c'est arrivé ? Tous ces gens, l'électricité, les tortures et la bande adhésive, les chants collectifs qui recouvrent les cris de ceux qui sont attachés au fil électrique. L'arrivée. On nous décharge un par un. Certains ont les mains liées par des bandes adhésives, les miennes sont enchâssées dans des menottes. Tout le monde a la tête dans un sac. Tout ce que j'ai pris avec moi dans la cave précédente, c'est mon manuscrit. Le reste de mes possessions est sur moi. On nous aligne contre le mur, toujours la tête dans le sac. On nous fouille méticuleusement. On m'autorise à récupérer les feuilles dans le vieux dossier. On débarque et chacun de nous comprend avec le temps que l'on n'est pas dans une prison, plus précisément pas dans une prison officielle où on amène habituellement les gens. Ici, les chefs d'accusation sont différents. Espionnage, terrorisme, extrémisme. Par la suite, j'écoperai de 2 condamnations de 15 ans chacune sur 7 chefs d'accusation. 6 seront liés à mon activité professionnelle de journaliste et 1 concernera l'espionnage. C'est le cas d'à peu près tout le monde dans cette prison pour les détenus particulièrement dangereux, comme l'administration a qualifié notre contingent. On nous met dans les cellules. Toutes les portes sont peintes en noir, les fenêtres en blanc. La lumière dans les cellules ne s'éteint jamais, même en plein jour. À peine s'ouvre la porte que tout le monde saute de son lit, enfile un sac plastique sur la tête, se tourne vers la fenêtre, les mains dans le dos. Tout cela ne prend que 2-3 secondes. C'est le règlement. Interdiction de rester couché, de regarder en direction des fenêtres ou des caméras vidéo. Les conditions de détention nous déroutent. Elle déroute quiconque entend parler de cette prison. Un camp de concentration avec l'air conditionné, vous plaisantez, entendais-je souvent dehors lorsque j'essayais d'expliquer ce qu'était la prison pour nous. Bon, vous êtes en effet accueillis par des plates-bandes de fleurs sous les fenêtres si vous débarquez en été. Vous trouverez l'air conditionné dans certaines cellules. C'est la vérité, mais pas la vérité totale. Mon voisin, blanchi en un mois, vous en donnera une autre partie. Il n'a pas pu parler pendant une semaine, ayant perdu sa voix après avoir crié toute la nuit, les électrodes collées à ses parties génitales. Le courant électrique et la peau du scrotum écorché parleront bien plus d'isolatia que l'air conditionné. Ici, tout est symbole. Si vous traversez isolatia sans un sac sur la tête, on peut gagner ce droit au bout de plusieurs mois. Vous verrez des tableaux de Lénine accrochés à la descente d'escalier menant à la cave, mais aussi son buste. Autrefois, le territoire de l'ancienne usine de matériaux d'isolation était une puissante plateforme culturelle. Ici se réunissaient les peintres et les artistes, étaient organisées des expositions et des installations. Avec l'arrivée à Donetsk du monde russe et du FSB, Lénine et son chemin radieux l'ont emporté. La route vers le paradis communiste s'est de nouveau transformée en enfer avec sa cave. Le réseau des abris atomiques de l'époque soviétique de l'ancienne usine s'est transformé en un réseau de torture, alors que les hangars et les boxes qui affichaient les tableaux ont été remplis de chars et de centaines de mines. Mais Isolatia n'était pas organisée uniquement comme une prison pour les dissidents. Certes, beaucoup de mes compagnons de cellule se sont retrouvés ici pour un message incorrect ou une expression de soutien à l'Ukraine sur les réseaux sociaux. Une telle manifestation était immédiatement classée comme extrémiste et entraînait 5 ans d'emprisonnement et plus. Du reste, j'écoperai de 5 ans pour de simples guillemets dans mes reportages. Les guillemets que j'utilisais pour « la République populaire de Donetsk », soulignant ainsi le fait qu'il s'agit d'une entité non reconnue par la communauté internationale, ni même par la Russie. Ces guillemets vous conduisent immédiatement à apposer votre signature sur un bout de papier affichant fièrement l'arrestation d'un criminel qui nie la souveraineté étatique de la DNR. Un jour, je poserai la question à l'enquêteur. Vous avez retenu 7 chefs d'inculpation à mon encontre qui me condamnent presque à la perpétuité. Ces guillemets, pour moi, ne signifient plus rien. Mais vous n'avez pas de scrupule à briser la vie de ceux qui n'ont écrit qu'une seule phrase sur leur page. C'est pour cela qu'on devrait écoper de 5 ans. L'enquêteur m'avait rétorqué en toute franchise. En règle générale, celui qui met des guillemets pour écrire DNR est aussi coupable d'espionnage. Un jour, j'ai demandé à un de ces hommes de la nitroglycérine après qu'on m'a refusé pour une énième fois mon transfert en prison. Seul Dieu sait comment il a réussi à garder à Isolatia une fiole entière de ses cachets qu'on lui avait délivrés en bonus après les tortures subies 1 an plus tôt. Je savais qu'il en avait, je voulais essayer d'imiter une crise cardiaque pour me retrouver au moins à l'infirmerie de la prison et quitter ce lieu maudit. Il fallait le faire non à Isolatia, où ce genre de choses ne provoque rien que des ricanements, mais au cours d'un déplacement qui était prévu quelques jours plus tard. De toute façon, l'issue létale m'était indifférente. Lorsque cet homme m'a écouté, il m'a dit qu'un jour, après un important vol à main armée avec échange de tirs, il a été condamné à son plus grand terme, 11 ans de régime sévère. Se retrouvant dans le camp couvert, il a longuement scruté sa cellule, avant de prendre conscience qu'il allait y passer 11 ans. Il en a pris conscience, l'a non seulement compris, mais ressenti. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Mais il a eu envie d'abord de parler à un voleur dans la loi qu'il connaissait bien, encore en liberté. Il lui a téléphoné de la cellule. Je ne sais pas ce que l'autre lui a dit, comment il l'a convaincu de tirer sa peine, mais il m'a dit la chose suivante. Le sens de la conversation se réduisait à ce fait. L'essentiel est de ne pas s'endurcir. C'est le problème de ceux qui marchent pendant des années d'une couche à l'autre. Sur ces 11 ans, j'en ai passé 9 dans le camp couvert, mais je ne me suis pas endurci. Ça ne fait 1 an que je suis ici, et je déteste tout le monde, moi y compris. Peut-être que tu as envie d'imiter une crise cardiaque. Peut-être que tu as envie de mettre fin à tes jours. Je ne te donnerai pas autant de cachets, parce que je ne connais pas la réponse à la question de quoi tu as besoin. Si c'est la deuxième chose, alors réfléchis. Mourir le cœur lourd, c'est comme crever pour rien. Le pire que tu puisses leur faire dans ce lieu, c'est de survivre et de tout raconter. Certains droits communs avaient une attitude négative à notre égard. Je me souviens qu'un jour nous discutions du fait que la notion d'homme n'existait pas pour l'administration. Un des droits communs nous a écouté longuement, puis s'est fendu d'un discours. Je ne le transmets pas mot à mot, mais le sens y est. Vous parlez des hommes, mais qu'est-ce qui vous reste d'humain ? Les hommes ne se comportent pas comme vous le faites. Si vous êtes des hommes, pourquoi vous tremblez quand la porte s'ouvre ? Pourquoi vous gardez les mains dans le dos, même quand vous êtes en cellule ? Pourquoi celui-ci hésite à aller aux toilettes et passer devant la fenêtre couverte de peinture ? Parce qu'hier, on lui a dit, à côté, s'il approchait de la fenêtre, on lui briserait les reins avant de le briser lui-même. La fenêtre est couverte de peinture, tu comprends ? On n'y voit rien. Mais il est important pour eux de te garder dans la peur. Une bouteille claque et toute la cellule saute sur ses pieds, prête à mettre un sac sur sa tête, parce qu'il pense que la porte va s'ouvrir. Les hommes, même dans l'armée, on ne fait plus son lit au millimètre. Ici, un bout de couverture pointe et on va droit au mitard. Tout doit être aligné. Parfait. Demain, on nous interdira de nous asseoir sur les couchettes pour ne pas déranger un alignement idéal. C'est déjà arrivé par ici. Certes, il ne faut pas monter sur ces grands chevaux. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Mais il faut détruire le système petit à petit. Aujourd'hui, on t'a fait une remarque pour un lit mal fait. Tu ne t'exécutes pas. Et demain, peut-être, ils ne diront rien. Tu risques le mitard ? Oui, ce n'est pas agréable. Mais cela veut dire qu'il faut continuer et essayer une nouvelle fois. Mais on nous a tellement fait peur déjà qu'on va bientôt nous mettre sous la couchette rien que pour respirer. Je vous comprends. Certains vivent comme ça depuis 2 ans et n'ont rien connu d'autre. Vous n'avez jamais été dans les camps. Vous ne savez pas comment vivent les gens, les vrais, pas les végétaux que vous êtes devenus. Moi, j'ai tiré 20 ans et j'en ai vu des choses. Et je sais, pour sûr, ce qui se passe ici, c'est de la folie. Cependant, le même droit commun m'a dit un jour autre chose, et ces paroles démontrent une nouvelle fois ce qu'était Isolatia, même aux yeux de ceux qui en ont vu bien d'autres. On dit, chez nous, respecte le temps passé en prison. L'homme peut être condamné à juste titre, mais aussi à tort. Peut-être qu'il a changé depuis, peut-être qu'il est resté le même. Mais si tu as passé 7, 10, 12 ans dans notre monde, on te laissera t'exprimer rien que pour ça. Tu as pu le sentir toi-même à Isolatia. Tu peux me déplaire pour plein de choses. D'autant plus que toi, tu es journaliste, et moi, un criminel de droit commun. Nous appartenons à des mondes différents, mais ici, en ce lieu, on peut facilement compter 1 jour pour 5. Si tu es resté 1 an, alors c'est comme si tu avais tenu 5 ans. C'est moi qui te le dis. Moi qui ai passé la moitié de ma vie dans une colonie de régime spécial, dans une cellule où on ne voit pas les couchettes à cause de la fumée du tabac roulé dans le journal, le papier journal. Et même là, c'était mieux qu'ici. Je prendrai donc toujours le temps de t'écouter, comme n'importe qui d'autre, uniquement parce que tu as été ici et que tu n'as pas perdu la raison. La peur. La peur occupe une place particulière dans le système de vie d'un détenu. Avant tout parce qu'il ne s'agit pas d'une vie, mais d'un système, appelé par le biais des pressions et des incitations à écraser l'individu, le faire disparaître dans le pot commun des phrases, face contre mur, baisser la tête, et pousser vers un modèle unique de comportement. Et dans ce modèle, il n'existe qu'une chose, la volonté de l'administration. En effet, si on parvient à enraciner à l'intérieur de l'homme le sentiment de sidération constante, l'individu se transforme en agile malléable dont on peut faire ce qu'on veut. L'exception constitue les cas où la peur de mauvais traitements ou des tortures empêche la personne d'exécuter jusqu'à l'ordre qui semblerait lui permettre d'échapper à ces mauvais traitements. Dans ce cas, l'homme est confronté à une paralysie totale de sa propre volonté. Et même les stimulants extérieurs, tels que les coups ou les menaces, ne sont pas toujours capables de le sortir de cet état. Ainsi, la principale tâche de l'administration d'Isolatia consistait à apprendre à l'homme à avoir peur, de manière systémique, 24 heures sur 24. Parfois, la peur se manifestait par des cauchemars ou la crainte des visites nocturnes, alors que les tortures et les humiliations en devenaient la conséquence. Pas à Prague. Avec quelle pensée un détenu d'Isolatia recouvre-t-il la liberté ? Je parle d'Isolatia, car la somme des réactions des prisonniers qui se trouvaient dans d'autres prisons et camps était radicalement différente. Malgré le fait que nous étions tous libérés du pénitencier de Makiivka, où avant l'échange on avait emmené des gens de différents lieux de détention, ce sont les détenus d'Isolatsia qui étaient le plus anéantis et sceptiques, même à un pas de la liberté. Ce refus de croire que tout fut terminé ou sur le point de l'être, ce pessimisme convaincu, je l'ai observé chez presque tous les anciens détenus de Isolatsia, y compris moi. À noter que j'étais le plus ancien de tous. J'y ai passé 28 mois alors que parmi les prisonniers de guerre, il y avait des gens qui, au moment de notre échange, étaient tenus en captivité depuis près de 5 ans sans être jamais passés par Isolatsia. Ce sont eux qui font souvent taire les plus optimistes, eux qui ont passé deux fois plus de temps que nous, privés de liberté, mais conservent une joie de vivre, même après avoir été plusieurs fois rayés des listes des échanges au cours des dernières années. Rien d'étonnant que, même avec les sacs de voyage en main, nous, les anciens détenus d'Isolatsia, nous suscitions souvent chez les autres un certain rejet, comme si nous faisions exprès de ne pas nous réjouir d'être sur le point de nous retrouver de l'autre côté des barbelés. Mais cette anesthésie émotionnelle n'était nullement volontaire. Pendant tout ce temps, on nous persuadait que nous n'étions rien, que l'avenir n'existait pas, que les cris des femmes et les tortures nocturnes étaient la seule réalité que nous méritions. Quelque part, dans notre fort intérieur, nous, les anciens d'Isolatsia, nous ne pouvions pas vraiment croire qu'un jour cela pouvait prendre fin, même si nous discutions de ce que nous ferions si nous devions nous retrouver en liberté. Je me souviens d'une de ces conversations la veille de l'échange, lorsque le soir je me suis éloigné dans un coin avec mon ancien camarade de détention pour ne pas être entendu. Je lui ai demandé s'il avait ressenti un soulagement en entendant son nom dans la liste des graciés. Il m'a répondu « Non, et tu sais bien pourquoi ». Nous avons discuté près d'une heure et ses pensées ne quittaient pas ma tête. Peut-être faut-il pousser cette cruauté jusqu'à sa limite, voire la dépasser. Ils brisent les doigts, nous allons briser leurs jambes. Ils font subir 30 volts, nous leur en ferons subir 100. Ils violent une prisonnière, nous allons tuer l'un d'entre eux. Peut-être faut-il pousser jusqu'au point où toute l'Ukraine serait submergée par un flot ininterrompu de cruauté qui ferait les gros titres de la presse internationale. Quelle profonde préoccupation de nos alliés les pousserait enfin à ressentir le froid glaçant des souffrances qu'exhale le Donbass, où on ne peut plus se contenter de mots, mais où il y a besoin d'actes. En fin de compte, peut-être Palitch avait-il raison cette nuit dans la cave lorsqu'il délirait sur le fait qu'il était presque Dieu, parce qu'il pouvait passer à travers tout, les cris, les hurlements et les supplications, et continuer à torturer sans limite. Serait-ce possible que celui qui ne mérite pas d'être considéré comme un être humain ait eu raison, et que c'est bien cela, notre réalité? Et nous, alors? Nous doutons pendant qu'ils agissent. Nous parlons pendant qu'ils attachent des fils. Je n'ai jamais parlé de cela à personne, mais ce sont des pensées qui m'accompagnaient dans l'avion qui nous ramenait triomphalement dans la capitale. C'est avec ces pensées que je prononçais des discours sur les droits de l'homme, n'ayant toujours pas trouvé la force de croire en ce que je disais. L'homme. Ne sont-ce pas des hommes qui nous ont fait tout cela? Ne serons-nous pas nous-mêmes, dans un accès de colère et par esprit de vengeance, prêts à reproduire tout cela? Si je fais la même chose, cela donnera un tant soit peu de sens à ce que j'ai traversé. Cette idée, dans une forme plus brute, a été exprimée par un droit commun. Ce sentiment est absurde, si l'absurde relève des sentiments. Il arrive que celui qui a été libéré ait l'impression qu'il doit absolument faire quelque chose pour rattraper ces quelques années. La vengeance y convient parfaitement. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Le premier jour de liberté, vous continuez à vivre dans la violence, même entouré des plus proches. Vous n'êtes tout simplement pas habitué à autre chose. Le balancier des émotions s'est rouillé. Mais j'ai déjà appris à expulser. Je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ces questions, tout comme je n'ai pas trouvé de réponse à la question principale. Et ce n'est pas celle de pardon. Je comprends parfaitement que quelqu'un pense pareil de l'autre côté. Quelqu'un est persuadé que je ne dois pas pardonner mais chercher à me faire pardonner. Il faudrait en effet trouver un juge suprême, cela à droite, ceci à gauche, de préférence en silence. La question que je me pose est tout autre. Qui suis-je ? Un jeune homme bien habillé quelque part à Prague, qui admire un beau coucher de soleil au-dessus des toits en tuiles et peut se permettre de réfléchir à l'humanisme ? Ou bien un être traqué dans une cage de Donetsk qui enquillait les kilomètres entre la grille et la porte avec des idées de vengeance lentes et pénibles ? L'habit et Prague ne donnent pas de réponse à cette question.